Merci beaucoup pour tout cet amour. Merci, c'est tellement bénissant d'entendre les témoignages année après année. Merci pour votre fidélité, merci pour votre amour pour Dieu. Vous êtes des femmes extraordinaires. Et je veux dire merci à l'équipe de communicatrices qui était là. Et franchement, pour voyager quand même pas mal, j'ai rarement vu ça. J'ai rarement vu une unité comme ça. Et savez-vous, pour moi, c'est le signe, vous savez, les femmes ensemble, lorsqu'elles sont unies, elles sont capables du mieux. Mais lorsqu'elles sont divisées, elles sont capables du pire. Et la force qui fait fuir l'ennemi, c'est une armée de femmes unies. Unies ensemble, le corps, chacun sa fonction. Chacun son appel, et je veux dire merci tout à l'heure du dîner, j'ai changé mon message au fur et à mesure, et on était avec les femmes, Rachel, les femmes qui étaient là, et puis je disais à quelqu'un, c'est quelle est la référence, Rachel t'appelle texte, ma soeur regardait le mot, et ainsi de suite, je disais, Mona, qu'est-ce que tu penses de ça, ok, on s'en va là, et c'est une équipe extraordinaire, vraiment, et je veux dire merci à Mona, on s'est rencontrés 3 minutes à l'aéroport, et on se connaissait pas du tout, elle dit, mais c'est Stéphanie, ben j'ai dit, mais oui, on s'est vu, et nos cœurs, je pense que je peux le dire, se sont attachés comme ça en l'espace de quelques minutes. Et Dieu, que ce soit une Canadienne au Québec, une Canadienne au Nouveau-Brunswick, Dieu avait déposé la même parole pour vous. Alors, si Dieu prend la peine de parler, c'est parce qu'il va le faire. Et imaginez comment on est, viens ici, Mona, comment nous sommes vraiment en unité, tiens-moi, regardez mes chaussures avec sa chemise. C'est de l'unité. On va regarder, on va terminer cet après-midi avec un passage qui nous appelle à aller plus loin. Est-ce que vous avez reçu de la part de Dieu? Amen. Et juste, avant de se quitter, j'aimerais qu'on regarde cette vidéo-là qui est humoristique, mais qui nous dit, même si nous sommes différentes les unes des autres, même si nous n'avons pas la même peut-être couleur de peau, le même âge, le même arrière-plan, mais ensemble, nous sommes plus fortes. Quelle journée on est? Je m'appelle comment? Ça va? Hier soir, OK. Hier soir, nous avons parlé de la terre promise, le peuple d'Israël avec Moïse, avec Josué. Nous avons vu que nous avons déjà une terre qui est acquise en Christ. Elle nous appartient. Nous pouvons vivre dans la paix, nous pouvons aller chercher la victoire en Christ parce qu'il a déchiré le voile et on a accès à la croix. Nous avons vu aussi qu'il y avait une terre promise à conquérir, comme on a parlé, et qu'on devait voyager léger. Et cet après-midi, je vais clôturer cette conférence en vous parlant d'une terre promise qui est à partager. Vous savez, on a reçu beaucoup, mais Dieu nous demande de donner par la suite. Et le but de mon message cet après-midi, c'est qu'on puisse faire comme Josué, c'est accepter l'appel que Dieu a pour chacune d'entre nous. Dieu nous appelle à partager le message que nous avons reçu. Dieu nous appelle, vous avez été bénis, vous avez ressenti la présence de Dieu. Maintenant, lorsque nous allons passer ces portes, Dieu nous appelle à briller dans un monde de noirceur. Dieu nous appelle à être le sel de la terre, de donner une saveur et de partager cet évangile. Et on va regarder une petite vidéo aussi qui est très drôle. C'est une vidéo publicitaire de Coca-Cola, mais elle montre comment les gens qui aiment le Coca-Cola, mais quand ils voient quelqu'un en détresse, prend le Coca-Cola et le donne à l'autre personne. Ce que vous faites, le parallèle, je ne vous demande pas de donner du Coca-Cola à personne. Mais projeté en disant, tu as quelque chose de précieux. Et Dieu t'appelle à ne pas le garder pour toi. T'appelle à le donner à quelqu'un d'autre qui en a besoin. Vous verrez, on a le droit de rire, c'est très drôle ça. Vous allez... Amen. Alors, cet après-midi, il faut, dans la bénédiction que nous avons, comme on a dit, Nawal a dit, on va partir et c'est facile d'être béni aujourd'hui, mais qu'on va faire face à la réalité. Et si vous vivez à la même époque que moi, en 2016, à l'automne 2016, vous savez que les jours sont difficiles. Les gens autour de nous souffrent. Il y a beaucoup de situations. Vous savez, au Québec, 3 personnes se suicident à tous les jours. Et il y a des taux de dépression qui augmentent, l'anxiété qui augmente, et les problèmes sociaux, les problèmes financiers. Vous avez sur Paris eu aussi les attentats. Je suis partie pour Paris. On s'en allait à Mulhouse la journée où il y a eu les attentats sur Paris. J'étais à Bruxelles une semaine avant qu'il y ait les attentats sur Bruxelles. Et il y a une tension partout sur cette planète. Et la parole de Dieu nous dit que quand le péché abonde, la grâce de Dieu surabonde. Et je fais un appel solennel. Je priais à ma place, puis d'habitude, je danse. Mais je vous dis sincèrement, je ressens sur mon cœur que de ce lieu, il y a des appels qui vont naître. Je l'ai déjà prêché ailleurs, mais particulièrement, pas ce message-là, mais la pensée que de ce lieu va sortir des ministères ou des œuvres. Mais je le crois sincèrement plus que jamais. Vous savez, je ne suis pas une prophète, mais de plus en plus, j'apprends à discerner la voix de Dieu sur mon cœur. Et je sais que 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 je pourrais aller comme ça, que Dieu se cherche des femmes pour des temps comme celui-ci. Dieu se cherche une armée de femmes que vous allez prendre une œuvre à cœur, un ministère, un appel. Peut-être que vous ne le voyez pas aujourd'hui. On va regarder à la vie de Josué, mais Dieu va vous faire rêver. Ma prière, comme moi, à l'âge de 15 ans, je me suis avancée un appel et j'avais le désir dans mon cœur, c'était de servir Dieu. Et alors que j'étais dans une colonie de vacances, Dieu a mis une image. Et je me voyais à 15 ans avec une Bible à la main et en train de prêcher l'Évangile. Si vous imaginez qu'à 50 ans, on n'a pas beaucoup de modèles féminins, francophones qui prêchent, imaginez retourner à 15 ans. Mais Dieu l'a fait. Et Dieu peut le faire pour chacune d'entre vous. Dieu veut utiliser des Québécoises, des Canadiennes, des Françaises, des Belges, partout, Nouméa, Martinique, nommé de toutes les nationalités que vous êtes, pour être... Est-ce que vous... Je le sens que je vais travailler fort aujourd'hui. Je sens qu'il faut que je remue la terre, parce que pour certaines d'entre vous, vous vous dites, moi, dans mon pays, comment je peux... Est-ce que c'est vrai? Et vous avez raison. Vous avez raison. Mais je sens que les jours, dans les derniers jours, dit Dieu, je répandrai mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Et il dit à la fin, quand Jésus est parti, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Et quand il dit faites de toutes les nations des disciples, est-ce qu'il a dit faites au masculin? Est-ce qu'il y a un genre à l'appel de Dieu, mes sœurs? Ce n'est pas une question de féministe, ce n'est pas une question de... Vous comprenez ce que je veux dire? Hommes et femmes dans la mission de Dieu, dans le plan de Dieu, dans la soumission de Dieu, va ouvrir des portes pour chacune d'entre vous. Vous comprenez ce que je veux dire? Dans la soumission de Dieu, dans l'obéissance, Dieu va vous utiliser. Et pourquoi je le crois? Parce que Dieu l'a fait dans la vie de Josué. Vous savez, lorsqu'on regarde à Josué, on pense que c'est un homme Dieu a choisi, Moïse est mort, et c'est toi maintenant, Josué. Et on croit peut-être au premier abord que lui, il était totalement programmé dans son ADN pour être le grand libérateur du peuple d'Israël. Amen? C'est pas du tout ça. Et la Bible est tellement extraordinaire parce qu'elle nous montre les facettes des personnages et que c'est un mythe de penser qu'on arrive héros. C'est un mythe de penser qu'on regarde des ministères et waouh, non. Si on lit la Bible, tous les héros de la foi ont eu un chemin de formation et Dieu les a utilisés. Et Josué, c'est la même chose. Et pourquoi Dieu a choisi Josué pour faire entrer le peuple dans la terre promise? Un, parce qu'il a accepté l'appel de Dieu. Il a dit, Moïse est mort, maintenant lève-toi. Ça suffit de dépendre à droite et à gauche. Le Seigneur te dit, maintenant tu es équipé, maintenant tu as reçu, tu as la puissance en Jésus-Christ, lève-toi. Amen. Je me rappelle quand on a commencé, Raymond et moi, tu te rappelles? On a fait, elle a peur de ce que je veux dire, et on avait des conférences de femmes, il y avait quelques femmes, et les femmes répondaient abondamment à l'appel, tu te souviens? Et là, j'étais seule pour prier. J'avais dit à Raymond, je ne veux pas te mettre mal à l'aise, mais j'avais dit à Raymond, viens prier avec moi, tu te rappelles? Puis Raymond a dit, non, ça va si je raconte, OK. Alors, parce qu'on a tellement de confidences que des fois, je ne veux pas trahir les confidences, mais, et là, je prie avec une femme, puis après, là, puis je dis, Raymond, viens m'aider. Elle m'a dit, non, je ne peux pas prier, Pourquoi tu ne peux pas prier? Pourquoi tu ne peux pas prier? Mais elle dit, mais je peux. Bon, je parle les détails, vous les connaissez probablement, qu'est-ce qu'elle pensait. Mais je dis, la Bible dit, priez les uns pour les autres. Est-ce que c'est écrit qu'il faut être machin, bidule, truc, 3 doctorats, 4 collèges bibliques, être un homme? Je suis profondément biblique. Et Josué n'était pas parti pour être le grand libérateur, tout comme Moïse d'ailleurs. Il a commis un meurtre avant d'y arriver. Et quand on regarde, pourquoi Dieu a choisi Josué? Parce que Josué était un homme animé d'un esprit différent. Si vous prenez des notes. Et le deuxième point, Josué était un homme qui avait le désir de servir. Je vais vous faire l'histoire rapidement parce que probablement vous la connaissez. Vous savez, après la sortie d'Égypte, les Hébreux sont arrivés à la porte de Canaan et avant de vouloir aller s'y installer, ils ont envoyé des espions parce qu'il y avait l'ennemi là-bas. Et il y avait des Hittites, des Madianites, des Hittites, des cellulites. Il y avait tous les ennemis, toute la cellule, les ennemis que vous pouvez penser. Je sais pas, j'en ai pas. Ça décrit, ça a l'air. Et qu'est-ce qu'ils font? Ils envoient, ce que je ne ferais pas pour vous garder réveillés, hein? Ils envoient 12 espions, dont qui était dans les 12? Josué et Caleb. Et les 10 qui arrivent, ils reviennent quand ils ont... Les 12 ont vu la même chose, vous savez? 10 sont revenus puis ont dit, oh, c'est vrai que c'est un bon pays, c'est vrai que c'est un pays où coule le lait et le miel. Imaginez les grappes de raisin, il y avait des branches de bois... Avec plusieurs hommes, ils ramenaient les grappes de raisin. Vous pensez que les modifications génétiques, ça fait quelque chose? Imaginez dans ce temps-là les raisins, comment c'était. Les raisins devaient être gros de même. Ils transportaient les grappes de raisin comme ça. Vous avez lu l'histoire? C'était des raisins transgéniques, je ne sais pas d'où ils venaient. Mais c'était tellement un lieu d'abondance que les raisins étaient énormes. Mais les 10 ont vu que les ennemis qui étaient devant eux. Et ils ont dit, « Ouais, mais ils sont des géants, ils sont ci, ils sont ça. Ah, c'est ça. » Et deux ont vu les raisins, ont vu l'abondance, mais Josué a dit, et c'est écrit dans Nombre au, verset 14, au chapitre 14, versets 7 à 8, ça nous dit, « Le pays que nous avons parcouru pour l'explorer est un très bon pays, excellent. » Et pourquoi ça m'a frappé? Dieu m'a percuté. Parce qu'aujourd'hui, je vous ai dit, il y a du suicide, il y a de l'anxiété, il y a de la dépression. Mais que là, tu dis, il y a des géants, comment on va faire pour changer le monde? C'est vrai? Mais Josué a des yeux différents. C'est un bon pays. Il y a une terre. Oui, il y a des ennemis, mais c'est un bon pays. Et après, il dit par la suite, il dit, c'est un très bon pays, excellent. Et si l'Éternel nous est favorable, il nous mènera dans ce pays et nous donnera ce pays. C'est un pays où coule le lait et le miel. La différence, les 10 espions ont vu juste l'ennemi. Et les deux autres, Josué et Caleb, animés d'un esprit différent, ont dit, si Dieu nous est favorable. Savez-vous quoi? Dieu nous est favorable. Dieu veut qu'il y ait un réveil en France, au Canada et partout dans ce monde. Nous prions pour le réveil. Nous prions pour un grand réveil. Nous sommes le réveil. Nous sommes, dis à ta voisine, t'es le réveil. Et je le crois de tout mon cœur. Moi, je peux influencer dans un week-end 1000 femmes. Mais vous allez partir d'ici combien? Si vous influencez seulement 5 personnes, chacun, faites le décompte. Comment c'est les calculs, les mathématiques de Dieu. Et pourquoi Josué a été utilisé? Premièrement, un, il y avait un esprit différent. Et mettez-vous dans son arrière-plan, Josué n'est pas un... Il n'avait pas fait de collège biblique, hein, je veux juste vous dire ça. Il n'avait pas de diplôme avec son nom gradué, approuvé. Il était un homme de guerre. Josué, c'était un guerrier. Et lui, sa façon de conquérir un pays, puis les Hittites, puis toutes ces affaires-là, c'était de se battre. C'était de se battre. Et l'Éternel, vous savez, son vrai nom, il s'appelait Hoshéa. Hoshéa, ça veut dire celui qui donne la victoire en hébreu. Et il y a tellement une grande différence de Hoshéa, celui qui travaille par ses forces, celui qui combat par lui-même, celui qui pense que par ses propres forces, il va conquérir le pays. Dieu a changé son nom en Josué, ce qui veut dire l'Éternel qui donne la victoire. Est-ce que vous saisissez la profondeur de ce changement de nom? Des fois, on pense que Dieu nous appelle à conquérir, à sauver des âmes, à faire des exploits, mais on pense qu'on est, par nos propres forces, on va y arriver. C'est complètement un raisonnement faux. C'est certain que ça prend des études, une formation, je dis pas, je crois en toutes ces choses-là. Mais avant toute chose, pour faire entrer, emmener des gens avec nous dans la terre promise, ça prend des femmes qui ne font pas par eux-mêmes, mais qui sont des libérateurs par la grâce de l'Éternel. Amen. Et Josué est devenu un homme de l'esprit, animé d'un esprit différent. Et la pensée qui était sur mon cœur, dans notre société, surtout chez les femmes, Dieu nous appelle, pas Dieu, mais les gens autour de nous mettent la pression pour être des superwomen. D'accord, il faut être ci, il faut être ça, il faut tout faire, il faut être parfaite, manger bio, faire l'exercice, tous ces trucs-là. Et dans le royaume de Dieu, Josué était peut-être un homme super guerrier. Mais ce n'est pas comme ça que Dieu l'a utilisé. Vous savez, Jéricho, ils ont chanté, ils ont crié, ils ont tout fait. Dieu a fait de lui quelqu'un qui était obéissant à la voix de l'Éternel, sensible aux choses de Dieu. Et Dieu ne nous appelle plus des super women. Il veut que nous soyons des super naturel women. Vous êtes une super naturel woman. Dis à ta voisine, essaie de dire ça dans un bel anglais. Dis à ta voisine, t'es une super... Faites avec moi. Ouf! Vous trouvez pas que ça fait du bien? Faites ouf! J'ai pas plus besoin d'être une superwoman. J'ai besoin d'être une femme supernaturelle de l'esprit. Et à travers ça, Dieu va faire le miracle à travers ma vie. Cela ne dépend pas de moi, cela dépend de Dieu. Alors, si tu te sens appelé, que tu te sens pas qualifié, n'oublie pas que Dieu appelle pas des superwomen. Dieu appelle des supernaturelles women. Hallelujah! Est-ce qu'il y a des supernaturelles women? Jusque dans le fond, des femmes animées d'un esprit différent. Un. Deuxièmement, pourquoi Dieu a choisi Josué? Parce qu'il était un serviteur. Hein? Moi, j'aime bien chanter dans la chorale, puis faire des choses. Josué était un serviteur. Et c'est fascinant, parce que savez-vous pourquoi, quand on a lu le texte hier, quand Dieu dit à Josué, « Ne crains rien, ne t'effraie point, je vais être avec toi comme j'étais avec Moïse. » Là, nous, on lit ça, on a une tasse de café. « Go, 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 Josué, vas-y, je suis avec toi, vas-y. » Savez-vous que Josué remplaçait Moïse? C'est pas rien, ça. Parce que si vous lisez dans le Deutéronome, dans le livre des Deutéronomes, chapitre 34, versets 10 à 12, écoutez le gars qui devait remplacer. « Il n'y a plus paru en Israël de prophète semblable à Moïse. » Imaginez Josué, là. Il est assis comme vous, là. Il doit se dire, je le vois assis à côté de Mona, Josué, puis Dieu lui parle. Lui, il sait, Dieu lui dit, « Voici, c'est toi qui vas y aller. » Oui, mais il a dit qu'il n'y avait pas de prophète comme Moïse. Moi, Josué, oui, toi, Josué, Dieu te parle cet après-midi et te dit la même chose. Il devait, ça dit, il n'y avait plus paru dans Israël le prophète semblable à Moïse que l'Éternel connaissait face à face. Imaginez Josué, faut que je remplace un gars qui a vu Dieu face à face. Qu'est-ce que je vais faire? Ils sont dans le désert, faut que je les sorte. Qu'est-ce que je vais faire? Est-ce que vous comprenez un peu? Ou faut que j'en mette plus que ça? J'ai chaud, je commence ma ménopause. Dites-moi amen que vous me suivez. Dites-moi que vous comprenez. Moi, en tout cas, j'ai compassion de Josué. Mais le cœur me fait mal. Il me dit, nul ne peut lui être comparé pour tous les signes et les miracles que Dieu l'envoya faire. Oh non, Seigneur! Contre Pharaon, contre ses serviteurs et contre tout son pays. Et pour tous les prodiges de terreur que Moïse accomplit à main forte sous les yeux de tout Israël. Tournez la page de votre Bible tout de suite après. Tournez, si vous avez une Bible, je vais tourner ça. C'est pas que je lis pas la Bible, hein. C'est parce que je vois pas l'Écriture. Fait que mes textes sont écrits en caractère 32. Alors voilà. Alors dans la Bible, Deutéronome 34, vous tournez la page et regardez. J'ai découvert ça cette année, c'était succulent. Ça dit, après la mort de Moïse, qui avait vu Dieu face à face, qui avait accompli des exploits, okay. Après la mort de Moïse, ce gars-là, l'Éternel dit à Josué, fils de Nun, serviteur de Moïse. Dieu a dit, après la mort de Moïse, serviteur de l'Éternel. Lui, il est correct. Moïse, il était qualifié. Dieu appela Josué, serviteur de Moïse, pour être appelé de Dieu, un esprit, une supernaturelle, voir l'esprit différent, la foi, les yeux de la foi. Regarde, ne pas regarder à ce qui est visible, regarder au premier, à ce qui est invisible. Et deuxièmement, j'ai pas besoin. Oui, on peut aller se qualifier. Oui, on peut aller au collège biblique. Oui, on peut aller faire une formation de counseling. Mais le premier critère, être serviteur de quelqu'un. Amen. C'est tout à notre portée. C'est tout à notre portée. Et on pense que ça prend, oh, voici, Dieu m'appelle. Dieu t'appelle. C'est certain que Dieu t'appelle. Il y a 99% de la population qui ne connaissent pas Dieu. En 2016. Puis là, on est là à s'asseoir pour dire, ah, oh, est-ce que Dieu m'a appelé? Est-ce que pasteur voulait confirmer l'appel de Dieu? C'est tout vrai, c'est tout bon. Mais j'ai une grande révélation. Le monde se meurt. Puis nous, on a discuté si on porte des jupes ou pas de jupes. Mon cœur est triste. Je pense que vous comprenez ce que je veux dire. Je vous ai vu depuis 2 jours être guéri, restauré, le miraculeux. Mais je me dis, il y a des centaines, des milliers et des milliers de femmes qui sont victimes de toutes sortes d'abus, de toutes sortes que peut-être, comme on a vu, qui sont en Égypte encore. Et nous, nous avons été délivrés. Nous sommes dans cette terre promise. Et il te dit, comme à Josué, emmène des gens avec toi dans la terre promise. Emmène des gens qui sont dans l'esclavage du péché, dans la servitude. Emmène-les avec toi. Ouvre ta bouche. Pas besoin d'avoir une grande révélation. Jésus, il marchait sur cette terre. Il était le Fils de Dieu. Il marchait, puis il voyait des gens qui n'avaient pas à manger. Qu'est-ce qu'il dit? Il fut ému de compassion. Il prit des pains, il les a multipliés. Peut-être qu'on ne peut pas les multiplier, mais on peut en acheter, par exemple. Tu comprends? Josué, comme un temps comme celui-ci, Dieu nous appelle à accomplir de grandes choses. Et ce qui est beau dans ce texte-là, c'est que Josué, à sa mort, c'est-à-dire 24 chapitres plus tard, ça nous dit, Josué 24, verset 29, « Après ces choses, Josué, fils de Nun, et savez-vous comment ils l'ont appelé? Serviteur de l'Éternel, alléluia! Mourut âgé de 110 ans. » Et c'est exactement ce que nous appelle. Nous sommes des serviteurs. Et quand on sert et on sert et on sert, Dieu fait de nous des serviteurs de l'Éternel. Dieu a une destinée de chacun d'entre nous. Dans Éphésiens, chapitre 2, ça nous dit, « Car c'est par la grâce, vous connaissez le verset, on peut l'afficher, « Car c'est par la grâce de Dieu que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi, cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Car nous sommes son ouvrage, son poème, son chef-d'œuvre, ayant été créé en Jésus-Christ pour des bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance. J'ai été rachetée à un grand prix pour que je puisse accomplir à mon tour les œuvres préparées de Dieu pour moi, d'avance pour moi. Amen. Des fois, on oublie la portion du premier texte. Oui, car c'est par la grâce que je suis sauvée. Mais je suis sauvée pour un but, pour une destinée, pour un plan. Et Dieu a un plan pour chacune d'entre vous. Comme moi, à l'âge de 15 ans, dans mon petit village à Rimouski, Dieu avait un plan destiné d'avance. Dieu, aujourd'hui, a un plan pour toi et veut le faire avec toi, comme avec Josué, de grandes choses. Amen! Si vous ne dites pas « Amen », je vais éclater. Alors, dites-moi « Amen! » Jérémie 29, 11, « Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance, un avenir à espérer. Si je peux te laisser avec toute la force, mais surtout l'onction de Dieu, espère en un avenir, un rêve, un ministère, un appel que Dieu a pour ta vie. » Dans le psaume 139, vous le savez, « Ah, quand j'étais une masse infirme et vide, je suis une créature merveilleuse, la 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 la. » Mais ça dit, « Quand je n'étais qu'une masse infirme, tes yeux me voyaient, et sur ton livre étaient tous inscrits les jours qui m'étaient destinés avant qu'aucun d'eux n'existât. » Dans le livre de Dieu, il y a des jours pour toi. Il y a une histoire pour toi. Je veux que vous répétiez dans votre cœur. Dites avec moi, « Il y a une histoire pour moi. » Dites-le encore, il y a une histoire pour moi. Il n'y a pas juste une histoire pour Mona, une histoire pour moi, une histoire pour Rachel, une histoire. Il y a une histoire pour Noël, il y a aussi une histoire pour moi. Depuis ce midi, c'est comme si je ressens que certains d'entre vous, vous pensez qu'il n'y a pas d'histoire pour vous. Il y a une histoire pour toi. Dieu a des plans pour toi. Vous savez, avec les pains, quand il a brisé les pains, il les a brisés. Mais avant de multiplier, il a fractionné le pain. Et le miracle a pris place. C'est la même chose dans nos vies. Tu penses que tu es peut-être trop brisé. Mais avec le brisement vient le miraculeux. Et avec le brisement vient le miraculeux qui nourrit des centaines de foules. Avec les brisements, Dieu va utiliser les brisements, peut-être les doutes, les craintes de ta vie pour nourrir des gens autour de toi, avec tes dons, avec tes talents. Dieu a un appel chacun d'entre nous. Ça nous dit aussi, il y a une citation de C.S. Lewis qui dit, « Les difficultés préparent des gens ordinaires pour une destinée extraordinaire. » Est-ce que moi, je réponds à ce critère-là? J'ai eu des difficultés? Puis je suis une personne ordinaire. Alors je m'attends à un résultat extraordinaire. Est-ce qu'il y a des femmes, vous êtes comme moi? Et un autre auteur, Hujdor, il a dit, « Notre destinée n'est pas déterminée par le nombre de fois où l'on tombe, mais par le nombre de fois où nous devons nous relever, se secouer et foncer. » Est-ce que j'ai des femmes dans ce lieu, vous voulez vous secouer? Vous faites pas ça, on veut se secouer et on veut passer. William Jennings Bryan a dit, ta destinée n'est pas une question de chance, mais une question de choix. Ce n'est pas une chose à attendre, mais une chose que tu dois accomplir. Et Charles Swindoll a dit, la vie est 10% de ce qui t'arrive et 90% de comment tu réagis à ce qui t'arrive. Nous sommes tous qualifiés pour une grande destinée. Comment on entre dans sa destinée? Une équation mathématique, si vous êtes fort en mathématiques. Comment on rentre dans sa destinée? Une journée à la fois, une année à la fois et une saison à la fois. Dites-le avec moi. Comment on rentre dans notre destinée? Une journée à la fois, et une saison à la fois. Et j'ai travaillé fort pour ce message. Et si vous prenez des notes, j'en vois beaucoup. J'ai une grande, grande citation, une grande révélation pour vous. Grande théologienne que je suis devant l'Éternel. Ce n'est pas la saison qui dicte ta foi, mais c'est ta foi qui dicte ta saison. C'est fort, hein? Merci, sœur. Je vous donnerai 10% sur le dos de mes revenus. Travaillez fort pour. Parce qu'on peut être dans des saisons difficiles, mais c'est notre foi qui va décider quelle saison nous traversons. Et dans Romains, chapitre 4, alors que j'arrive à la fin, je vais inviter tranquillement les musiciens à arriver. Romains, chapitre 4, versets 18 à 22. Imaginez Abraham. Abraham, Dieu lui avait fait une promesse. et il a eu l'accomplissement de sa promesse alors qu'il était très, très âgé. Peut-être qu'Abraham et Sarah sont allés consulter Rachel parce qu'il y avait certains problèmes. Et ça nous dit dans Romains chapitre 4, verset 18, ça, en parlant d'Abraham qui attendait la promesse, il dit « Espérant contre toute espérance, il crut en sorte qu'il devint père d'une grande nombre de nations selon ce qui lui avait été dit, telle te sera ta postérité. Et sans faiblir dans la foi, il ne considéra point que son corps était déjà usé. » Là, je vous fais un cours d'anatomie, là. Êtes-vous d'accord? Et Rachel, tu me corriges. Quel âge avait-il Abraham à cette époque-là? 100 ans dépassé. Oui, 100 ans dépassé, puisque ça. Et ça dit, il ne considéra pas que son corps était usé. Êtes-vous d'accord avec moi qu'Abraham n'était pas dans une saison de sa vie pour avoir des enfants? Est-ce qu'il faut que je fasse un dessin ou j'invite Rachel pour nous l'expliquer? Abraham n'était pas dans une saison de sa vie pour donner naissance à quelque chose de grand. Mais Abraham, la saison de sa vie n'a pas dessiné sa destinée. C'est sa foi qui a choisi, qui a fait changer sa saison. Il était dans une saison, pas pour avoir des enfants, mais sa foi a fait qu'il a pu entrer dans sa destinée. Et ça dit par la suite, puisqu'il avait près de 100 ans et que Sarah n'était plus en âge d'avoir des enfants, il ne douta point par incrédulité au sujet de la promesse de Dieu, mais il fut fortifié par la foi, donnant gloire à Dieu. Ce n'est pas toi, ce n'est pas la saison qui dicte ta foi, c'est ta foi qui dicte ta saison. Mais nous ne sommes pas des femmes dans le déni. Êtes-vous d'accord? Tu sais, à ta voisine, pour la réveiller, je vois l'effet du lunch qui fait... Tu sais, à ta voisine, dis-y quoi? On est dans différentes saisons de notre vie. Dis-lui ça. Dis-lui, on est dans chacune différentes saisons de notre vie. Et même si j'ai la foi, il y a des saisons qu'il faut que je passe à travers. Même si j'ai la foi, je commence ma ménopause. Que voulez-vous? C'est une saison! Mais par la foi, je dis à mes estrogènes qu'ils n'auront pas le dessus sur moi, dans le nom de Jésus. Trois vérités, les saisons font partie de notre vie. Nous entrons dans notre destinée, un jour à la fois, une année à la fois, une saison à la fois. Et peut-être que tu n'es peut-être pas dans la saison de ta destinée, mais les saisons passent. Et les saisons passent. Trois vérités, alors que je termine, trois vérités sur les saisons. Il y a du bon dans chacune des saisons que nous traversons. Il y a du bon dans chacune des saisons que nous traversons. Et vous savez, bien souvent, on n'est jamais content de notre saison. Êtes-vous d'accord? On n'est jamais content de notre saison. Quand vous étiez ado, on est juste des femmes, alors je me permets, après ce que j'ai entendu de Rachel, alors je me sens complètement folle aujourd'hui. Pour prendre l'exposition. Elle m'a dit que j'étais déjà ça, là. Mais c'est vrai, quand on était ado, je ne sais pas si vous étiez comme moi, mais les copines à l'école qui avaient leurs règles, puis nous, on n'avait pas nos règles, on avait hâte d'avoir nos règles. Êtes-vous d'accord avec moi? Vous n'étiez pas comme ça, vous? On dirait vraiment, on est découragé. Je finis ta conférence en force, toi. Mais ça se dit, c'est des règles, les menstruelles, c'est ça? OK, le mot au chic, c'est ça. Et quand, après ça, on est rendu adulte et qu'on a les SPM et toutes ces affaires-là, on n'en veut plus de menstruation. Vous êtes d'accord? Mais plus de règles. C'est une autre saison. On n'est jamais content, tu vois? Et lorsqu'on arrive à la ménopause, on aimerait ça avoir nos règles. Ce texte, c'est une grande profondeur. Parce que vous pouvez le transposer dans divers aspects de votre vie. Quand je vais avoir des enfants, je vais être heureuse. Quand j'ai des enfants, je suis malheureuse. Quand ils vont partir, quand ils vont avoir des petits-enfants, je vais être heureuse. Il y a du bon dans chacun des enfants, des saisons. Quand je vais être célibataire, je vais être heureuse quand Dieu va me donner un mari. Quand je suis mariée, tu dis, je vais... Non, quand tu es célibataire, tu dis que tu vas être heureuse, que tu vas avoir un mari. Vous comprenez ce que... Il y a dans chacune de nos saisons, il y a du bon à retirer. Deuxième vérité, les saisons passeront même si ça nous semble long. Des fois, on a l'impression Vous savez, Dieu fait les lois spirituelles en harmonie avec les lois naturelles. Il y a un bon livre là-dessus aussi. Et ça dit que quand les saisons passent, vous savez, quand nous, au Canada, on a l'été 2 mois. Hein? Puis Mona, au Nouveau-Brunswick, je dirais que c'est 1 mois, elle. Et quand tu arrives en hiver, novembre, décembre, janvier, février, il y a la neige, il fait froid, il y a la neige, il fait froid, tu as l'impression que l'été ne reviendra jamais. Mais au niveau spirituel, émotionnel, affectif, dans notre vie de ministère, dans notre vie de femme, dans notre vie d'épouse, dans notre vie de mère, des fois on a l'impression qu'on est en hiver et que l'hiver ne finira pas. Et que l'hiver, mais vous savez, en hiver, tout meurt. Mais le printemps revient toujours. Et tout reprend vie. Et tout reprend vie. Comment tu rentres dans ta destinée? Une journée à la fois. Une année à la fois. Une saison à la fois. Il y a du bon dans chacune des saisons. Et je veux t'encourager. Si Dieu a mis un rêve sur ton cœur et tu as l'impression que la saison ne vient jamais, que tes enfants sont trop jeunes, qu'il y a le temps d'ici, il n'y a pas l'argent, c'est pas ci, c'est pas... Un jour, le printemps va arriver et Dieu va faire l'œuvre. J'ai reçu cet appel-là à l'âge de 15 ans et je suis rentrée dans mon ministère à temps plein 30 ans plus tard. Presque 30 ans plus tard. La saison était longue et je pensais que Dieu m'avait oublié. Et je pensais que c'était juste mon mari. Et je pensais, et je pensais, et je pensais. Un jour, Dieu m'a dit, c'est à toi. Le printemps arrive, vas-y, fonce. Et puis après ça, l'été est arrivé et Dieu a ouvert des portes extraordinaires. Pour moi. S'il le fait pour moi, il peut le faire dans la saison de ta vie. Et troisième et dernière vérité, la vie reprend toujours après les saisons mortes. Je vais terminer avec un témoignage d'une femme qui est une amie à moi. Et je lui ai demandé de m'écrire son témoignage. On peut mettre les photos directement de la dame avec un voile qui prêche. Est-ce qu'on peut mettre la photo de la dame avec un... Enfin, alors, les photos vont apparaître. Et c'est une femme qui... Vous la voyez, elle fait le ministère. Et c'est une femme qui était mariée, avait un mari, ses enfants, tout allait bien. Mais après quelques temps, il y a eu de la violence conjugale dans la maison. Et cette femme a été victime de violence. Elle était battue, séquestrée. Et même si... ça peut arriver même dans l'église. OK? Son mari était chrétien, elle aussi. Mais face à cette violence conjugale-là, elle a dû protéger sa famille, se protéger elle-même. Elle a quitté son mari. Elle a été divorcée. Elle a demandé le divorce. Et elle était dans une saison de sa vie. Elle était dans une saison de sa vie où c'était l'hiver. Qu'elle croyait. Qu'est-ce qu'elle disait? Je veux servir Dieu. Elle était étudiante au collège biblique. Elle a dit, qu'est-ce que Dieu va faire de moi? Une femme, c'est pas facile. Et ajouter une femme divorcée. Ça se complexifie un peu encore plus. Et après 7 ans, je vais vous lire qu'est-ce qu'elle m'a écrit. Voilà 7 ans maintenant que ma vie a basculé. Et il y a une famille, un mari, une maison, une bonne situation financière et des rêves à accomplir. En peu de temps, tout a disparu. Mon conjoint a quitté le foyer familial. La maison a été vendue. Je me suis retrouvée seule avec 2 adolescents en colère et à soutenir financièrement leurs études. En peu de temps, tout s'est effondré autour de moi. C'est pas encore assez gros, Mona. Tout s'est effondré autour de moi pendant ma famille, ma maison, ma situation financière et tous mes rêves étaient perdus. Pendant cette période sombre, je ne pouvais rien voir au-delà de la noirceur. Cette femme-là, c'est comme nous. Son horizon, elle ne pouvait rien voir au-delà de l'horizon. C'est peut-être toi aujourd'hui. Elle dit, pendant cette période, je ne pouvais rien voir au-delà de la noirceur. Je ne pouvais voir aucune issue à ma destinée, à mes rêves, à mes désirs. Mon rêve de faire du ministère était maintenant impossible. Alors que j'avais commencé mes études au collège biblique, j'ai dû tout arrêter. Comment une femme divorcée, rejetée, brisée peut exercer le ministère? Et dans mon cœur, il n'y avait plus aucune possibilité à ce rêve. J'avais fermé la porte. Et tranquillement, elle a commencé à se réimpliquer. Elle a aidé un pasteur, son épouse était malade. C'était un pasteur sur Montréal qui était un pasteur des missions. Et alors qu'elle était en mission avec lui, elle faisait des petits voyages en Haïti. Elle aidait avec la nourriture, distribuait des sacs de riz. Alors elle dit à ce moment, alors qu'elle croyait que son rêve de servir Dieu était mort et enterré, Dieu l'a fait revivre. Là où je croyais qu'il n'y avait plus aucune possibilité, il a ouvert un chemin. Elle a commencé après à être rebâtie. Après ça, à recroire que Dieu avait quelque chose. Elle a commencé à servir, faire des voyages missionnaires, parce qu'elle avait un cœur missionnaire, aller en Haïti. Et elle dit, il a ouvert un chemin, il est le Dieu de l'impossible. Cet été, regarde, j'ai été tellement touchée. Cet été, je me suis rendue au Pakistan, où Dieu a ouvert la porte en ma faveur. J'ai prêché à une foule de plus de 2000 personnes. Jamais, jamais dans mes moments les plus sombres, je n'aurais pu imaginer, même penser, que Dieu pourrait accomplir mon rêve. Je suis de retour de l'Inde, alors qu'elle était sur Montréal, je suis de retour de l'Inde, où Dieu a ouvert les portes. J'ai apporté la parole à une foule de musulmans et hindous, conduisant 60 personnes à Christ et prêchant à une colonie de lépreux. Une femme divorcée, brisée, qui a choisi dans une saison difficile que ce n'était pas la saison qu'elle a dicté sa foi, mais sa foi qu'elle a dicté sa saison. Et Dieu a fait l'impossible. Imaginez dans un pays musulman une femme qui prêche l'Évangile et qui emmène des âmes à Christ. Et elle conclut et elle dit, il est le Dieu de l'impossible. Il est le Dieu qui ressuscite ce qui est mort. Je vous le dis, c'est pas moi qui ai écrit ça, c'est elle. Elle me l'a écrit textuellement, comment elle est dirigée par l'Esprit. Il est Dieu qui ressuscite ce qui est mort. Il est le Dieu qui peut donner la vie à tes rêves qui sont morts comme il l'a fait pour toi. Alléluia. Est-ce qu'on peut se lever ensemble cet après-midi? Alléluia. J'aimerais qu'on chante un chant qui est sur ton cœur. On va chanter un chant, puis on va aller à la prière.